Le sens des mots. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Olivier Naoum.
Bienvenue dans l'oreille aux aguets, nouvelle conversation autour de la langue avec vous, Jeanne Bordeaux. Bonjour Jeanne.
Bonjour Olivier.
Alors, puisqu'il est coutume ici de prendre l'époque à rebrousse-plume, évoquons d'emblée une expression souvent répandue dans les médias, celle de storytelling. Pourtant, il existe dans la langue française une façon de parler de ce fameux storytelling, une expression bien française et même poétique, c'est tout simplement mise en récit.
Oui, la délégation à la langue française a trouvé là, je dirais, la juste transposition. Alors, si on parle de récit, justement, Saint-Exupéry avait cette très belle phrase « Si vous voulez construire un navire, il ne suffit pas de rassembler des hommes, de les conduire dans la forêt pour abattre des arbres, les scier et clouer les planches, il faut plutôt leur inculquer le désir de la mer. » Et je crois qu'actuellement, à propos du storytelling et de cette mise en récit, nous décidons, Olivier, vous et moi, de le traiter parce qu'il y a beaucoup d'idées fausses. Ce n'est pas un récit au sens d'une affabulation, d'un bobard. Le récit existe et il doit avoir de l'élan et d'une certaine façon s'ancrer dans le patrimoine d'une marque ou d'une entreprise. Donc, il est souvent confondu dans le monde de la communication, par exemple, avec le contenu de marque. Or, en fait, il faut qu'il soit fondé sur un mythe fondateur. Il faut qu'il y ait une capacité maïeutique pour l'entreprise ou la marque, un peu comme le font les récits populaires des contes de fées. Alors, on parle beaucoup de cette mise en récit. Au même moment, on parle de ces fameux transparents, parce que les transparents, c'était une langue d'entreprise décomposée et morcelée, alors que la mise en récit permet narration, permet un fil conducteur, qui est un peu le fil d'or de l'histoire, et permet cette qualité d'évocation, ce désir de la mer et cette possibilité de faire rêver dont parle si bien Saint-Exupéry.
Et Jeanne Bordeaux, quand vous parlez des transparents, vous parlez de ces documents que l'on projette et qui résument l'esprit d'une entreprise?
Oui, sont ces cailloux du petit pousset sans lesquels et sans l'appui desquels aucun cadre dans une entreprise semble désormais pouvoir parler.
Le support d'un propos qui va parfois vite et qui nous transporte aussi sur le retour en grâce de certains vocables. Celui-ci se nomme « indignation ». Vous l'avez peut-être remarqué, Jeanne, il y a eu le succès du livre que l'on sait, celui de Stéphane Hessel. Nous n'allons pas porter de jugement sur la teneur politique de cet ouvrage, mais plutôt constater le retour en force du mot « indignation ». Et il n'y a pas si longtemps, le Robert avait joliment parlé de ce mot avec cette expression « sentiment de colère » que soulève une action révoltant en nous la conscience morale ou le sentiment de la justice. Il y a eu aussi un roman de Philippe Roth, Indignation, mais est-ce que vous ne trouvez pas, Jeanne Bordeaux, qu'aujourd'hui, l'indignation apparaît comme quelque chose d'accessible? C'est un peu une colère qui est moins solennelle. Au départ, quand on pensait indignation, on pensait à des grandes causes, à des propos de politique sur des situations internationales. Est-ce qu'aujourd'hui, indignation a pris une dimension plus quotidienne?
Probablement, et ce serait là un long débat. Je crois que l'on peut s'indigner, mais ça pose beaucoup de questions. On y reviendra. Faudrait-il encore avoir les mêmes repères? S'indigner par rapport à quoi? Et est-ce que notre société a encore en commun des codes d'honneur par lesquels elle se sent un petit peu en référence? Donc c'est vraiment un autre débat. Mais d'une certaine façon, j'ai voulu, vous avez bien senti, parler d'accessibilité parce que dans cette émission, on essaie de traîner l'oreille, de promener notre oreille dans ce Paris des affaires, de la société. Et il y a un mot qui est assez utilisé de façon obsessionnelle, c'est accessible. Vous avez raison.
Oui, puisque l'indignation devient accessible, alors migrons vers cette accessibilité.
Et vous avez raison, vous verrez pourquoi elle devient accessible. C'est-à-dire qu'au départ, ça vient d'un adjectif qui veut dire, au fond, ce qui est proche et aller vers ou s'approcher de. Et c'est intéressant parce que le mot, finalement, cohabite beaucoup avec l'idée de proximité que l'on trouve partout et que les entreprises ont tendance à prendre comme valeur, alors que la proximité n'a jamais été une valeur. Le mot accessibilité, en fait, dans le vocabulaire français, il apparaît au XVIIe siècle pour parler du caractère accessible d'un lieu. Mais on va voir que c'est un mot dont le sens s'élargit et que tout à coup, le beau est accessible, donc ce n'est plus concret, ça devient abstrait, c'est comme une valeur qui devient accessible. Et puis, la société marchande et économique s'installant, c'est un emploi qui va être accessible. On a quelqu'un comme David Lynch qui dira « J'apprécie l'accessibilité de la télévision ». Ce n'est pas forcément très concret et très clair. Et tout cela va beaucoup plus loin, puisque en 1999, on a même la création d'une délégation ministérielle à l'accessibilité.
Voilà, un voilà. mot difficile à dire
Donc
parfois.
Donc on voit bien qu'en plus, c'est très curieux de le promener tant, parce qu'il n'est pas si simple à prononcer. Et il va être, je dirais, partout, un mot un tout petit peu valise, un mot caution. Par exemple, accessibilité et aménagement des postes de travail de travailleurs handicapés, où on va parler de l'accessibilité du web dont bénéficient les personnes âgées. Alors, d'une certaine manière, parfois, c'est étonnant de se dire pourquoi utilise-t-on un mot jusqu'à l'usure ? Pourquoi ce mot plaît-il tant ? Parce que quelque chose qui est accessible, c'est juste parfois facile. Et ça pourrait être plus simple de dire que c'est facile. Mais non, le mot s'est imposé et je crois qu'on aime ces mots un peu grandiloquents qui peuvent avoir un sens tellement étendu qu'il devient distendu.
Nos oreilles ont intinabulé pour mise en récit, pour indignation, pour accessibilité. Et voilà un autre de ces mots dans l'air du temps, mais qui est en train de passer comme ringard, pour employer une expression désuète, c'est le mot accélération, car il n'a pas bonne presse. On sait le succès du livre signé du sociologue allemand Hartmut Rosa, qui évoque cette accélération en des termes négatifs. Le temps se rétrécit, nous n'avons même plus confiance de voyager. Bien sûr, on ne remet pas en cause toutes les accélérations, Internet à haut débit, le TGV ou encore le droit de cité, mais accélération n'est plus le symbole de la modernité. On trouve beaucoup le mot raisonné à côté d'accélération. Il y a l'agriculture raisonnée et il y a l'accélération raisonnée. Il y a peut-être cette crainte de voir un monde qui va trop vite. Pourtant, Jeanne, accélération retrouve encore un crédit auprès des médias, auprès des journalistes. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a eu des événements dans le monde arabe, des soulèvements, des révolutions. Et là, voilà l'expression qui arrive, qui plaît beaucoup à nos confrères, c'est accélération de l'histoire. Mais Jeanne, au fond, est-ce que ce n'est pas étrange de parler de l'accélération de l'histoire, puisque l'histoire, elle suit son cours ?
Je ne sais pas, parce que peut-être qu'on a gagné sur l'espace avec la conquête dans les années 68-70 et qu'on a marché sur la Lune. Et est-ce que le temps après 68 n'a pas été cette conquête du temps après la conquête de l'espace ? Quand au même moment, on a des livres comme celui de Jean-Louis Servan-Schreiber sur le court-termisme, quand on a un livre comme « La dictature de l'urgence », peut-être que nos confrères amis journalistes, en tant qu'hommes de médias, sont quand même parfois médiums, mais je leur prête ce trait de caractère positif qui est qu'ils sont dans l'encre, plongés avec leurs plumes et leurs ordinateurs, malgré tout dans l'inconscient collectif, et parfois avec justesse.
Effectivement, vous évoquez la dictature de l'urgence de Jill Finkelstein qui participe de ce mouvement que l'on qualifie de lent, voire de slow. On l'avait déjà évoqué dans une précédente émission, Jeanne, mais comme il nous faut conclure, comme vous avez nourri le récit, partons à la rencontre de quelqu'un qui savait très bien mettre en récit les morales et même les fables. Il s'appelle Jean de La Fontaine, tout simplement.
La montagne qui accouche, une montagne en mal d'enfant, jetait une clameur si haute que chacun au bruit accourant crut qu'elle accoucherait, sans faute, d'une cité plus grosse que Paris. Elle accoucha d'une souris. Quand je songe à cette fable dont le récit est menteur et le sens est véritable, je me figure un auteur qui dit « Je chanterai la guerre que firent les titans au maître du tonnerre ». C'est promettre beaucoup. Mais qu'en sort-il souvent ? Du vent.
Jean de La Fontaine conclut notre conversation, espiègle peut-être comme la petite souris enfantée par la montagne. À bientôt, Jeanne, pour de nouvelles aventures, l'oreille aux aguets.
Au revoir, Olivier.
Thank you.